Monseigneur François Durand, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu dans nos studios pour nous parler un petit peu de l'actualité du diocèse, de vos actualités aussi. C'est le mois de mars, un mois qui est entre le début du carême et Pâques, en fait, qui approche, puisque le carême, c'est un chemin vers Pâques. Avec, dans cette émission, plusieurs sujets. On pourra revenir sur le carême, effectivement, sur les visites pastorales, sur la commémoration des martyrs d'Algérie, le Secours catholique, qui reçoit aussi quelqu'un d'important pratiquement à la fin de ce mois de mars. Alors, pour commencer, on va peut-être débuter par le carême, puisqu'il a commencé le mercredi des cendres, que vous-même, vous vous déplacez de ville en ville actuellement pour des conférences de carême. Le carême, c'est quoi exactement ?
Alors, le carême, il a d'abord été créé pour les personnes qui se préparent au baptême, à recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne. Ça, c'est au départ. Donc, pour un temps d'entraînement, un temps de préparation, un combat spirituel aussi, pour nous préparer à ce qui est le cœur de l'année pour les chrétiens, c'est-à-dire le Triduum Pascal, les jours saints, et la grande fête de Pâques, la mort et la résurrection de Jésus. Et de plus en plus de personnes nous demandent d'avoir des propositions concrètes pour vraiment faire le carême, vivre le carême, même des personnes qui ne se disent pas pratiquantes de tous les dimanches, veulent faire le carême aujourd'hui. Je trouve que c'est un très très beau signe, parce que ça montre bien qu'être chrétien, c'est pas une idée, c'est pas simplement une coutume, mais c'est un changement, une conversion de notre vie. Et c'est ce qui est premier. Donc le carême, c'est d'abord ça, c'est 40 jours pour que nous puissions changer nos cœurs, revenir vers le Seigneur, qui est notre source, la source de notre vie, de tout amour. Et puis, en revenant vers le Seigneur, nous rapprocher de cette manière-là de tous nos frères et sœurs en humanité.
C'est une sorte d'entraînement pour s'améliorer, c'est ça ?
Alors, on pourrait voir cette image un petit peu comme pour les sportifs qui vont s'entraîner pour un match, une compétition importante, ou pour des musiciens qui vont répéter et de plus en plus à l'approche du concert, de la prestation. Après, c'est pas non plus un concours, hein. C'est surtout travailler cette relation avec le Seigneur, avec Dieu, d'où l'insistance sur la vie de prière. Prière personnelle, mais aussi prière communautaire quand on se rassemble en église. Et puis, vraiment un temps aussi d'attention aux autres, d'attention aux personnes, notamment les plus en précarité. Et c'est la question de l'aumône, mais aussi du jeûne. Le jeûne consistant à faire de la place pour Dieu, pour les autres. Donc, ces trois dimensions qui sont traditionnelles pour vivre le carême étant liées. Donc c'est pas chercher à avoir plus de mérite ou avoir plus de points pour être bien vu de Dieu, c'est pas du tout cet ordre-là, mais c'est accepter humblement d'avancer et pour se laisser convertir de l'intérieur pour être plus près de Dieu et des autres.
Concrètement, qu'est-ce que chacun doit ou peut faire ?
Alors il y a beaucoup de possibilités. Bon, déjà sur le site internet du diocèse de Valence, vous avez 5 parcours qui sont proposés avec des propositions très concrètes. À la fois de formation, parce que se former comme chrétien, comme chrétienne, pour moi, c'est une des manières aussi de vivre son carême et de pouvoir trouver les mots pour exprimer la foi catholique. Et c'est très important aujourd'hui. Beaucoup nous attendent sur ce plan-là pour que nous soyons clairs sur ce que nous croyons, en qui nous croyons. Le carême, c'est aussi jeûner, vivre ses privations, non pas comme quelque chose pour montrer qu'on serait dur, qu'on aurait vraiment une capacité. On n'est pas des stoïciens non plus, mais c'est plutôt pour nous ouvrir en faisant un jeûne, par exemple certains repas qu'on ne va pas prendre, notamment des vendredis de carême ou le vendredi saint. Et puis l'argent qu'on n'aura pas dépensé pour ce repas, on va le donner pour d'autres personnes qui souffrent de la faim ou qui sont dans la précarité.
Donc c'est un geste concret.
Le pape Léon XIV appelle à jeûner aussi de toutes les paroles médisantes, calomnieuses. Et ça, c'est sûr que ça peut changer beaucoup de choses dans notre quotidien et dans notre société, si on pratique ce jeûne-là. Donc bien sûr, aussi l'aumône, le partage, on peut participer à une action caritative, on peut s'engager aussi à donner à des associations caritatives qui ont vraiment grandement besoin de notre soutien, aussi bien au niveau local qu'au niveau international, pour montrer que nous ne sommes pas tout seuls, nous ne sommes pas auto-centrés, nous ne pensons pas qu'à nous de manière égoïste, mais nous sommes dans une même humanité et que nous ne pouvons pas être tranquilles tant que des frères et sœurs en humanité souffrent de la faim ne peuvent pas subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Bon, c'est quelques exemples. Il y a intensifier notre vie de prière. Je pense notamment en méditant la parole de Dieu. Ça peut être la parole de Dieu qui est l'évangile, la messe de chaque jour. Et se nourrir de cette parole que le Seigneur nous adresse à chacun, c'est très important pour après ce que nous allons vivre dans la journée.
Alors traditionnellement, pendant les temps de carême, on entend parler de conférences de carême. Chaque vendredi, une conférence, une thématique. Et là, cette année, pour le carême 2026, c'est vous qui faites ces conférences de carême et vous vous déplacez dans plusieurs endroits du diocèse pour apporter cette conférence de carême à domicile, en fait.
Oui, alors une conférence de carême, bon, pour moi, c'est un grand mot. C'est surtout encourager, soutenir notre démarche de carême, que nous puissions bien la vivre dans tous les endroits du diocèse de Valence. Et ça me paraît important que l'évêque puisse aller à la rencontre. Alors, je ne vais pas partout, mais je vais dans chacune des 6 unités pastorales pour, en effet, un temps de prière, parfois une célébration eucharistique, un temps d'adoration, de louange, et puis un apport, un enseignement sur le thème « Je sais en qui j'ai mis ma foi ». Donc, c'est une parole de l'apôtre Paul dans une lettre à Timothée. Et bien sûr, c'est dans le Christ, en Christ qu'il a mis sa foi, en Jésus. Jésus qui nous révèle qui est Dieu et qui nous révèle aussi qu'est-ce que c'est qu'être un homme libre, vraiment, aujourd'hui. Alors, dans cet apport, ben, j'insiste sur la question de la vérité de notre foi qui doit être précise et qui est une personne, hein, Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le fait aussi que notre foi, si nous la vivons de manière véritable, elle nous conduit à témoigner. Nous ne gardons pas pour tout seul la joie de croire, la joie de notre foi. Et puis que pour être vraiment un témoin authentique, nous devons vivre cette relation en vérité avec le Christ et non pas dans la demi-mesure, mais vraiment y aller pleinement en cohérence.
Donc pour retrouver les conférences de carême et les dates et les lieux, il suffit d'aller sur le site du diocèse et puis tout est marqué. Donc en fait, ces conférences que vous allez faire sont sur le thème un peu de la liberté, on peut dire ça comme ça, d'être un homme libre.
Être un homme libre pour croire, voilà. Et le fait que nous ne pouvons pas vivre sans croire, la question de la confiance est très altérée aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont du mal à faire confiance aux autres, faire confiance aussi aux personnes qui ont autorité, à avoir confiance en elles-mêmes, ça revient très souvent. Et nous ne pouvons pas vivre sans faire confiance. Et je pense aussi que croire est une dimension fondamentale, croire en l'autre, ce qui veut dire tisser une relation, croire aussi que Dieu veut notre bonheur et veut nous sauver, et puis croire à Jésus, à ce qu'il nous enseigne. Et il y a des connaissances aussi à pouvoir acquérir dans la foi chrétienne.
Vous parlez de confiance et ça me fait penser à un sujet dont on parle beaucoup actuellement, c'est la crise de la confiance en la politique. Et nous sommes effectivement aussi dans une période d'élection municipale. Vous, en tant qu'évêque et représentant de l'Église catholique dans la Drôme, vous placez comment par rapport à ces élections qui sont des élections locales? Donc vous rencontrez vous aussi des maires régulièrement?
Oui, régulièrement. Quand je me déplace pour des visites pastorales, très souvent des maires, notamment les maires de petites communes rurales, viennent et sont présents. Et souvent, je leur pose deux questions. Enfin, comment ils vivent ce service, parce que c'est vraiment un service de la population. Et donc, ils m'expliquent un petit peu que c'est à la fois, bon, c'est une passion pour eux, mais c'est pas toujours simple. Et je leur dis, c'est vraiment un sacerdoce, quoi. C'est-à-dire, vous donnez pour les autres. Et puis je leur parle aussi toujours de leur équipe. Est-ce qu'ils ont une bonne équipe? Est-ce qu'ils arrivent à travailler en équipe? C'est important. Oui, moi j'encourage vraiment à aller voter à ces élections municipales locales, à respecter aussi nos élus, les maires, les conseillers municipaux, qui se mettent au service aussi de notre de vie en société et plus largement que de l'intérêt général, qui pour beaucoup veillent au bien commun, voilà, pour que chacun puisse vivre dignement, correctement, dans notre belle Drôme, dans ces différentes régions. Bien évidemment, l'Église ne donne pas de consigne de vote, c'est pas du tout la question. Chacun est adulte et doit pouvoir en conscience se déterminer à partir des programmes, à découvrir des personnalités que nous connaissons. Mais voilà, mais l'invitation, c'est vraiment de se déplacer et d'aller voter, de participer à la vie publique. Et j'encourage les catholiques aussi à se présenter à ces élections municipales.
Lève-toi, viens et danse pour ton salut. voici que Dieu te parle. Viens, n'aie plus peur, lève-toi, viens et danse. Tu es libre et vainqueur.
RCF, rendez-vous avec Monseigneur François Durand, évêque du diocèse de Valence.
Toujours dans notre magazine, rendez-vous avec l'évêque et Monseigneur François Durand, évêque du diocèse de Valence. Dans cette émission sur RCF, on continue à aborder quelques sujets d'actualité, de la politique locale à la politique nationale. Et il n'y a qu'un pas, et la politique nationale ces derniers jours, c'était aussi le projet de loi pour la fin de vie. Et là aussi, les églises catholiques de France, pour le coup, mais même localement, se sont prononcées et ont invité à être acteurs.
Oui, les évêques nous avons vraiment invités à écrire aux parlementaires, notamment aux députés, puisque le projet de loi est revenu à l'Assemblée nationale fin février, où il a été voté, adopté. Bon, il va repartir au Sénat. C'est important aussi pour nous, nous avons appelé à une prière, notamment... un dimanche, enfin vraiment ça a été une invitation à ce qu'il y ait une journée de prière et de jeûne. C'était pour le premier vendredi de carême. Pour nous, cette proposition de loi constitue un saut, une rupture sur ce que nous voulons dire de l'humanité et dans notre manière de vivre en société. Donc c'est les articles de cette loi présentent des changements majeurs pour notre vie commune. Avec le fait qu'il faut bien reconnaître que c'est l'euthanasie et le suicide assisté, et ne pas employer d'euphémisme comme l'aide à mourir, c'est une injection létale, hein. Il faut appeler les choses comme elles sont. Ce qui est particulièrement dur, je trouve, c'est que dans chaque établissement de soins, de santé, chaque maison de retraite, la possibilité de pratiquer l'euthanasie devra être actée. Et refuser de pouvoir le faire, ça sera se mettre contre la loi, ce qui est vraiment contraire à notre éthique, à notre pratique. Beaucoup de maisons aussi religieuses, qu'elles soient protestantes ou catholiques, avec notamment chez les catholiques, des congrégations religieuses qui font un travail remarquable. Je pense aux petites sœurs des pauvres, aux petites sœurs des maternités catholiques, vont être vraiment entravées dans leur action et puis menacées par des condamnations par la loi française, alors que vraiment je ne vois pas le mal qu'elles pourraient faire. Au contraire, elles sont dans un accompagnement et un don total d'elles-mêmes pour les personnes, pour les personnes malades, les personnes âgées, les personnes en fin de vie. Voilà, pour nous, c'est important d'accompagner la vie jusqu'à la mort naturelle, en veillant bien sûr à soulager les souffrances morales et les douleurs aussi physiques, le plus possible. Et nous savons qu'avec les soins palliatifs, dans un travail interdisciplinaire, une personne qui dit « je veux mourir », qui souffre trop, mais quand elle est bien accompagnée, cette demande-là disparaît. Et le fait qu'elle puisse parler, rencontrer les personnes, des fois se réconcilier, petit à petit, elle va lâcher et sa vie va s'éteindre naturellement, mais non pas de manière brutale. Ce qui ne... En apparence, on a l'impression qu'on résout la question, la personne ne souffre plus, nous on souffre moins, mais en réalité, non, dans l'inconscient, il y a tout un travail qui se fait et qui fait que les choses n'ont pas été ajustées et qui crée après d'autres problèmes pour notre vivre ensemble et notre société.
Alors, je reviens un tout petit peu en arrière. On parlait du carême tout à l'heure, on a fait une petite parenthèse politique. On revient un peu sur des signes de vie, pour le coup. Oui. Les catéchumènes, ils sont de plus en plus nombreux, donc ce sont ces adultes qui demandent le baptême. Et vous disiez que le carême, c'était aussi un parcours pour ceux qui demandent le baptême, effectivement. En 2018, 23 adultes demandent le baptême. En 2019, 35, ça continue comme ça jusqu'en 2023, 44 en 2024, 79 en 2025, 87 en 2026.
88 même.
88 même. Mes chiffres ne sont pas à jour. Ça a changé depuis hier.
Ça a changé. 88 qui vont être baptisés
qui
cette
vont être
année.
Baptisés en 2026.
Mais il y en a bien d'autres qui sont en préparation, qui seront baptisés l'année prochaine ou l'année d'après. C'est vrai que chaque dimanche, il y a des demandes de baptême. On l'a encore vu le jour, premier dimanche de carême, pour l'appel décisif de ceux qui vont être baptisés à Pâques. Il y a encore eu deux demandes de baptême. Le mercredi décembre, beaucoup de demandes de baptême. Je crois qu'ils sont un petit peu la partie émergée de l'iceberg. C'est pourquoi j'invite aussi les catholiques à approfondir leur foi, pour trouver les mots justes, pour parler simplement et de manière vraie de notre foi catholique, qui est une foi sensée, rationnelle, qui fait vivre, qui est une relation vivante avec le Christ. Et en effet, il nous encourage, il nous bouscule. Il y a tout un défi aussi pour qu'ils puissent prendre bien leur place dans les communautés chrétiennes et renouveler l'Église. Ce sont souvent des jeunes. Et les premières enquêtes qui ont pu être faites au niveau national montrent que les plus jeunes parmi ceux qui demandent le baptême, donc on va dire les 18-25 ans, sont encore plus actifs pour lire la Bible, lire la parole de Dieu, pour chercher à se former au niveau de leur foi et pour leur vie de prière, et y compris la prière liturgique avec la participation à la messe. Donc nous, ce que nous voyons, c'est qu'une nouvelle génération de plus en plus religieuse est en train de se lever, et nous devons être au rendez-vous, bien sûr. Ils nous encouragent à vivre notre foi de manière encore plus fervente et plus cohérente, et je crois que c'est plein d'espérance, tout en sachant que nous avons à faciliter la possibilité pour eux de rencontrer des chrétiens. Beaucoup commencent par chercher sur les réseaux sociaux, sur Internet, même des fois sur l'intelligence artificielle. Mais après, ils parlent surtout des rencontres qu'ils ont faites avec des catholiques, la bienveillance avec laquelle on les a accueillis. Beaucoup sont touchés par cette bienveillance et il faut la souligner, parce que parfois on est négatif sur les chrétiens, les catholiques. Mais non, il y a quand même une vie évangélique qui transparaît, qui transpire. Et puis, ils sont heureux de pouvoir être formés, accompagnés par des aînés dans la foi qui les guident sur ce chemin, qui leur font découvrir l'Église, qui les apprennent à prier, qui leur apprennent à lire la Bible et qui élargissent aussi leurs connaissances avec le catéchisme de l'Église catholique, par exemple.
Alors effectivement, il y a ces nouveaux baptisés, puis il y a les confirmants aussi qui s'ajoutent à ceux-là. Là, ils sont encore plus nombreux, on est à un peu plus de 100 pour la Pentecôte 2026. Donc ça, c'est des personnes qui ont déjà été baptisées, pour certains un baptême un peu endormi, et puis une foi qui se réveille en fait, c'est ça ?
C'est ça. Alors certains ont été baptisés tout petits, bébés, et puis après n'ont reçu aucune catéchèse. Mais le baptême est quand même actif. Voilà. Le baptême, c'est un sacrement. Dieu donne et ne reprend pas ce qu'il a donné. Et nous voyons qu'un certain nombre de personnes qui ont été baptisées mais qui n'ont reçu aucune éducation chrétienne par la suite, ça les travaille de l'intérieur et ils ont envie d'approfondir et de le vivre, soit suite à certaines épreuves de leur vie, soit parce qu'ils veulent donner sens et cohérence à ce qu'ils font, à ce qu'ils vivent, avoir une vie meilleure, pas simplement... penser sur leur réussite personnelle, mais vraiment aussi avec une humanité et un service des autres. Voilà, donc ils vont demander la confirmation, un certain nombre aussi de pouvoir communier pour la première fois, pour eux c'est important, et prendre davantage leur place et leur mission dans l'Église, voilà, vraiment vivre leur baptême. Donc là aussi, nous avons à les accompagner avec soin, parce que beaucoup ont énormément à découvrir, à apprendre, et ils en sont conscients.
Et ils attendent, ils aussi.
Et ils attendent. Ils ont soif, oui, ils sont désireux.
Et le temps que le monde change, et le temps que change les temps, et le temps que ce monde étrange se perd et que tourne les vents, inexorablement, et le temps. Dans ses couverts en argent, inexorablement, elle attend. Elle attend que le monde change, elle attend que change les temps, elle attend que ce monde étrange se perde et que tourne les vents, inexorablement, elle attend.
RCF, rendez-vous avec Mgr François Durand, évêque du diocèse de Valence.
Toujours dans notre émission sur RCF, rendez-vous avec l'évêque et Mgr François Durand, évêque du diocèse de Valence. Dans cette dernière partie, on va aussi parler d'une commémoration, celle des martyrs d'Algérie, puisqu'au mois de mai, il y aura 3 jours de manifestation pour cette occasion.
Oui, le pape Léon XIV sera en Algérie du 13 au 15 avril prochain. Donc non seulement à Alger, Notre-Dame d'Afrique, mais aussi à Hippone, à Naba, donc la ville et la basilique de Saint-Augustin, qui était évêque d'Hippone. Et nous savons que le pape Léon XIV est augustinien, d'une congrégation augustinienne. Il est fils de Saint-Augustin. Il cite très souvent Saint-Augustin, qui est un grand-père de l'Église. On dit le plus grand-père de l'Église d'Occident. On peut dire que pendant, presque 18 siècles, l'Église romaine... en Occident, a vécu avec la pensée de Saint-Augustin. On peut penser aussi que Luther, fondateur de la Réforme, était un moine augustinien. Voilà, lui aussi. Donc, dans la Drôme, nous avons l'abbaye d'Aiguebelle, une abbaye cistercienne, dans laquelle étaient plusieurs moines qui sont ensuite partis dans l'abbaye de Tibérine, en Algérie, et qui ont été martyrs, voici 30 ans. Nous avons aussi le frère Henri Vergès, qui, avec la sœur Paul-Hélène, ont été les premiers des 19 bienheureux martyrs d'Algérie. C'était en 1994. Donc cette année, nous fêtons les 30 ans des martyrs de Tibérine et aussi des derniers bienheureux martyrs d'Algérie, le dernier étant Mgr Pierre Claverie. Donc le 8 mai, il y aura un concert et puis une célébration eucharistique à Romans, d'où était originaire frère Luc. Et puis ensuite, le 10 mai, à l'abbaye d'Aiguebel, la messe sera présidée par le cardinal Vesco, l'archevêque d'Alger, et retransmise au jour du Seigneur, donc une messe télévisée.
On pourra voir la Drôme à la télé donc le 10 mai pour la commémoration de ces martyrs d'Algérie, dont l'un était drômois, le frère Luc. Autre rendez-vous pour la fin de ce mois de mars, en tout cas le milieu du mois de mars, c'est le Secours catholique qui fait venir quelqu'un de plutôt brillant.
Oui, c'est l'aumônier national du Secours catholique, donc le père François Audinet, qui travaille aussi beaucoup du point de vue universitaire sur notre relation avec les plus pauvres, sur la place et la parole des pauvres. Dans la lettre pastorale que j'ai donnée au diocèse en octobre, j'insiste sur cette relation avec les plus pauvres pour demeurer avec le Christ et être vraiment missionnaire. C'est pas une option, c'est vraiment une condition sine qua non pour que nous puissions être chrétiens, fidèles du Christ. Et notamment, donc il existe déjà un groupe Place et Parole des Pauvres, et j'invite à ce que ça puisse se développer pour trouver les moyens de recueillir la parole des plus précaires, ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils veulent dire, pour notre Église aussi, ici dans la Drôme. Et je serai attentif à bien écouter ce qu'ils font remonter pour les orientations du diocèse. Donc cette rencontre avec François Audinet, le père François Audinet, est importante le 21 mars. Ça s'appelle Parole de vie, justement. Et c'est pour nous former, nous ressourcer, par cette rencontre et pour cette rencontre avec les plus pauvres.
Pour terminer, Monseigneur François Durand, vous avez dit que le carême était un parcours, un chemin vers quoi, au fond?
Alors un chemin vers Pâques, donc la mort et la résurrection de Jésus. Il ne faut pas passer trop vite sur la mort du Christ sur la croix, c'est vraiment là que Dieu lui-même nous rejoint, dans nos lieux de souffrance et dans notre mort. C'est là que Dieu est tout-puissant. Sa toute-puissance, elle consiste à nous rejoindre dans nos épreuves, à être avec nous, non pas pour s'y enfoncer et disparaître avec nous, mais au contraire pour que nous puissions faire vivre un passage, une traversée, nous relever. Et c'est tout le sens du samedi saint, qui est le jour du grand silence, et puis de cette célébration de la Pâque qui se fait en deux temps, donc pendant la nuit, donc pour bien montrer que c'est au cœur de nos nuits qu'une petite lumière s'allume, et puis petit à petit elle empêche que les ténèbres occupent tout l'espace, que la nuit soit complète. Non, la nuit n'est jamais complète, il y a toujours cette présence, cette lumière du Christ qui est là. Et puis le jour de Pâques, la messe du jour de Pâques, où nous laissons exploser notre joie de la résurrection de Jésus, qui nous appelle à vivre pleinement aujourd'hui, et en nous disant que notre vie éternelle, elle est déjà commencée. C'est pas simplement après notre mort, mais nous pouvons déjà goûter cette vie éternelle dans notre lien avec le Christ et notre engagement par amour au service des autres.
Merci beaucoup, Monseigneur François Durand, d'être venu dans nos studios. Rappelons que vous animez les conférences de carême dans les 6 unités pastorales du diocèse, et donc on peut vous retrouver bien jusqu'à Pâques, en fait, pratiquement dans plusieurs endroits. Merci d'être venu dans nos studios.
Merci, merci.
À bientôt.
Bon carême, merci.
Au revoir.